Troisième étape, passer d'un monde à l'autre. Épisode 6. Guerre, magie et connaissance dans les Eddas. Et comment le dieu Odin apporte l'écriture aux hommes.
Eh bien, me voici dans une rue de Paris. Il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie. Et ça tombe bien puisque je m'apprête à rencontrer Pierre Bristal, qui va m'initier aux mythologies scandinaves. Il est maître de conférences en civilisation nordique à l'université de la Sorbonne. Alors, on arrive devant la porte. Voilà, je fais le code. Et j'entre. Me voici dans une cour beaucoup plus calme. Bonjour. Merci de me recevoir. Donc, Pierre Brice, avec vous, nous allons poursuivre notre voyage littéraire, notre voyage mythologique, mais cette fois dans le Grand Nord. Je n'y connais absolument rien en mythologie nordique et scandinave, donc j'ai l'enthousiasme du néophyte. Comment allez-vous faire pour m'initier à un domaine aussi excitant que ces mythologies nordiques ?
En commençant peut-être à parler des sources. Voilà, quelles sont les différentes sources auxquelles on a accès et comment justement est-ce qu'on peut parler de mythologie nordique. Alors, il faut savoir qu'on a déjà certaines sources contemporaines qui nous sont parvenues. Donc, on a tout ce qui est de la culture matérielle, comme avec les tombes, les traces de bâtiments. On a les artefacts également, avec des statuettes qu'on peut rapprocher de certaines divinités, comme Odin ou Thor. De l'iconographie, avec des pierres illustrées, de l'île de Gotland, par exemple. Ou des stavkirkes, ce sont des églises à bois debout. Où on trouve notamment des représentations chrétiennes adjointes de scènes de la mythologie nordique. Voilà. Ensuite, il y a également certains textes contemporains qui nous sont parvenus. On peut penser notamment aux inscriptions runiques. On a également tout ce qui est issu de la poésie skaldique, un type de poésie qui nous est parvenu principalement à travers des manuscrits du 12e, 13e siècle.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle les Eddas ?
La poésie est entièrement lié aux deux Eddas. Donc déjà, il y a deux Eddas. Alors il y a l'Edda de Snorri et l'Edda poétique. L'Edda poétique, c'est un recueil de poèmes mythologiques et héroïques qui sont rassemblés notamment dans un manuscrit, le Codex Regius du XIIIe siècle. L'Edda de Snorri se réfère à un traité de poétique rédigé vers 1230 par Snorri Sturluson. Snorri Sturluson, c'est un historien, un poète, un homme politique islandais.
Ces mythes se sont développés dans ce qu'on nomme la Scandinavie. Cela recouvrait quel pays ?
Alors, actuellement, quand on parle de Scandinavie, généralement, au sens strict, on va plus parler du Danemark, la Suède, la Norvège. Alors, quand on parle de Scandinavie médiévale, le terme est des fois synonyme de nordique également, en fait. En termes de pays, ça comprend également l'Islande, par exemple, les îles Féroé, le Groenland.
Et les Vikings, qui sont-ils dans tout ça ?
Le viking, dans son sens premier, c'est une personne qui participe à une expédition maritime. Ce sont des commerçants, des pillards, des guerriers qui cherchent notamment à s'enrichir. Alors, cependant, les contemporains de l'époque vont les désigner par d'autres termes, comme Dani, Northmanni ou encore Russe pour les Scandinaves à l'Est. Et c'est au 19e siècle que le terme viking va prendre un sens plus large et qui renvoie à présent à l'ensemble des Scandinaves de l'âge médiéval.
La Voluspa, extrait de l'Edda poétique. Prédiction de la prophétesse. Silence, je demande à tous, les êtres sacrés, petits et grands, fils de Heimdallr, tu veux, Valfoder, que moi, je révèle les anciens récits des hommes, les plus reculés que je me rappelle ? Je me rappelle les géants, nés à l'origine. Eux qui, il y a bien longtemps, me mirent au monde. Neuf mondes, je me rappelle. Neuf étendues immenses, et le glorieux arbre du monde enfoncé dessous terre.
Quels sont les principaux personnages de cette mythologie ?
Alors, dans cette mythologie, on va notamment rencontrer plusieurs divinités comme Odin, Thor, Freya, Frigg, également Loki, mais également d'autres êtres surnaturels, notamment comme on va voir des nains, on va voir des elfes, voilà, et également des nords sur lesquels on pourra revenir, qui sont liés au destin.
Alors, parlez-nous de Odin. Quelles sont ses caractéristiques ?
Alors, Odin est associé à la magie, poésie, la mort, la guerre et la connaissance. Ça fait beaucoup. Mais en fait, il y a un principe à garder à l'esprit, dans la mythologie nordique notamment, c'est qu'il n'y a pas un dieu pour chaque aspect. Et les divinités nordiques n'ont pas des rôles bien définis, bien tranchés. Il y a des fonctions même qui vont se chevaucher. Donc, il est plus exact de dire qu'ils sont associés à certains aspects.
Je ne connais pas très bien Odin, mais je le sens quand même comme un dieu assez cruel, non ?
Oui, alors il va pouvoir favoriser quelqu'un et puis enlever par la suite ses faveurs vis-à-vis de cette personne. Donc c'est une figure très très complexe. C'est un dieu qui est souvent représenté notamment avec deux corbeaux, donc Huginn et Muninn, à savoir la pensée et la mémoire, voilà, qui lui rapportent les nouvelles du monde.
Je sais que ça a été une pomme de discorde entre le christianisme et les religions nordiques, le corbeau, parce que le corbeau était vu comme extrêmement puissant et bénéfique dans les mythologies nordiques, alors qu'aux yeux des chrétiens, le corbeau, c'est vraiment le mauvais oiseau, c'est le mal. Odin est souvent associé aux Valkyries. Alors, quel est le rapport entre Odin et les Valkyries que nous connaissons à travers les compositions de Wagner ?
Les Valkyries, voilà, donc ce sont des êtres qui ont également évolué. Donc, il y a beaucoup d'études là-dessus afin de déterminer vraiment. Mais dans les représentations que l'on a habituellement, justement, ce sont des jeunes femmes qui vont sur le champ de bataille récupérer les guerriers pour Odin. Donc, elles sont liées à Odin.
Pourriez-vous nous les décrire ?
Malheureusement, beaucoup des représentations que l'on a vont plus venir par la suite.
Ah,
voilà,
d'accord.
Donc c'est notamment très influencé par Wagner.
Le ring.
Voilà, tout à fait. Il ne faut juste pas trop s'imaginer avec le casque ailé ou le casque à cornes, puisque ce sont. La question de ces représentations-là sont également liées à ce contexte, notamment 17e, 18e, 19e, qui a fait parer notamment les divinités et les vikings de ces casques. Voilà, et donc, pour Odin, il est en lien avec les classes dominantes, telles que les rois, les chefs, mais également, il est associé aux guerriers, aux skalds.
Et le mot de skald lui-même, qu'est-ce qu'il signifie ?
Donc, un skald, c'est un poète, et on parle ainsi de poésie skaldique. On trouve justement un de ces mythes qui raconte comment Odin s'est emparé du nectar poétique. Donc voilà, il a réussi à le dérober en se transformant en oiseau, après plusieurs péripéties, et il arrive à transporter ce nectar poétique. Et donc, il est dit, donc de par son bec, il va reverser. Mais juste avant d'arriver, avant d'être attrapé, il lâche de son autre extrémité quelques gouttes. Et donc, il est dit que les mauvais poètes tirent justement cela de ce type d'hydromel de poisson.
J'ai très bien compris. J'adore, c'est excellent. Odin est aussi le dieu des runes. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler des runes ?
Oui, donc effectivement, on trouve dans un poème éddique, justement, le Havamal, un passage où on nous présente Odin qui se pend pour accéder à la connaissance des runes. Et donc, on a un rite d'initiation dans lequel Odin, qui est à la fois l'objet et le sujet de l'initiation, acquiert un savoir.
Les Havamal, dans l'Edda poétique. Je sais que je pendis à l'arbre battu des vents, neuf nuits pleines, navré d'une lance et donnée à Odin. Moi-même à moi-même donné, à cet arbre dont nul ne sait d'où proviennent les racines. Point de pain me remire, ni de cornes. Je scrutais en dessous, je ramassais les runes, hurlant les ramasser, de là retomber. Alors je me mis à germer, et à savoir, à croître et à prospérer. De la parole, me menait. D'acte en acte, l'acte me menait. Tu découvriras les runes et les tables interprétées. Très importante table, très puissante table, que colora le sage suprême, et que firent les puissances, et que grava le crieur des dieux. Sais-tu comment il faut tailler ? Sais-tu comment il faut interpréter ? Sais-tu comment il faut teindre ? Sais-tu comment il faut éprouver ? Sais-tu comment il faut demander ? Sais-tu comment il faut sacrifier ? Sais-tu comment il faut offrir ? Sais-tu comment il faut immoler ?
Et après, il revient à la vie ? Comment ça se passe ?
Donc ici, rien nous indique justement qu'il meurt, en fait.
Oui.
Voilà, donc c'est plus une sorte d'initiation. Certains ont parlé de sacrifice, mais le terme initiation est plus proche de la réalité.
Des initiations à la mort qui ne sont pas des vrais morts, c'est formidable. Mais c'est en tombant qu'il trouve les runes, c'est ça ?
Voilà, oui, donc c'est à la suite de sa pendaison, justement, qu'il va pouvoir les ramasser.
Ah, il les ramasse, voilà. J'adore. Donc ce sont des objets à la base, les runes.
C'est assez complexe, puisque au final, le poème nous donne une des visions des runes,
oui.
Telles qu'elles sont transmises. C'est-à-dire, c'est toujours très difficile de savoir, à la base, à quoi fait référence les runes.
Oui. Qu'est-ce que c'est comme écriture ? Est-ce que c'est une écriture alphabétique, phonétique, hiéroglyphique ?
Alors, c'est un système d'écriture avec des lettres qui correspondent à des sons ou des phonèmes. Le terme fusarc fait référence aux premières lettres de l'alphabet. Pour le vieux Norrois, on va trouver 16 runes. Donc, on connaît leurs noms de par notamment deux poèmes, un poème d'origine islandaise et un poème d'origine norvégienne. On va notamment nous présenter, donc la première c'est Fé, qui est liée à la richesse, Ur, à l'averse, Thurs, le géant. Et donc, on a un petit peu une présentation de ces noms qui est aussi un effet mnémotechnique afin de mémoriser justement ces runes.
Et pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer des runes ?
Voilà, donc ici, par exemple, on a certaines pierres runiques que l'on va retrouver.
Que c'est beau !
Donc, notamment avec...
un serpent.
On voit plusieurs, tout à fait, avec des bandes runiques où à l'intérieur, on va retrouver des runes, des inscriptions. Alors, il faut savoir... qu'au niveau de ces pierres runiques, très souvent, on a des formules qui vont revenir. C'est « un tel a fait graver cette pierre à la mémoire de un tel ». Et puis après, on va donner le lien, par exemple, que ce soit son frère, sa femme, son père, etc. Voilà, donc c'est très souvent de ce type qui est lié soit à l'aspect commémoratif, soit au niveau de la propriété.
Et cette écriture est sacrée.
Alors, on va pouvoir retrouver, notamment dans certains récits, une utilisation des fois des runes afin de jeter des sorts. Et c'est une utilisation parmi d'autres. Il y a d'autres formes de magie, mais les runes sont également présentées de cette manière-là.
Les runes me fascinent parce que instinctivement, je sens que c'est un langage écrit plus puissant que nos langages écrits. Et bon, quand j'écris. Bon, il existe diverses utilisations de l'écriture dans ma vie. Moi aussi, je remplis ma déclaration d'impôt et j'écris des choses stupides. Mais quand j'écris à des fins littéraires, si j'ose dire, je sens que c'est un autre emploi de l'écriture. On est tout à coup dans un emploi sacré. Et les mêmes signes que ceux dont je me sers dans, de façon vulgaire vont tout à coup acquérir un pouvoir particulier. Le pouvoir du langage écrit va devenir peut-être même plus fort que celui du langage parlé. J'ai certains moments de transe quand j'écris où écrire le mot, je sais pas, écrire le mot chat va plus faire apparaître le chat que si je voyais le chat en vrai. C'est un lien singulier entre le langage écrit et la réalité. Est-ce que c'est une chose qu'on peut retrouver dans les runes ?
Alors, effectivement, il y a le lien vis-à-vis du fait que les runes sont gravées. Mmh. Alors justement, quand je parlais de l'Edda poétique ou que je parlais de l'Edda de Snorri, il faut savoir que ça a été écrit donc, en vieux norrois. C'est la langue également qu'on a pour le jeune Fussark au niveau des runes. Mais le vieux norrois, il y a deux écritures différentes. Il y a les runes et il y a également un alphabet latin modifié avec l'ajout de certaines lettres vis-à-vis des sonorités. Et donc, ces textes-là, quand ils sont écrits, la majorité des textes écrits sont à partir de l'alphabet latin. Les runes sont principalement utilisées justement pour graver. Mmh. Donc on a également aussi le fait de graver, on a aussi un acte voilà, qui est assez fort.
Pierre Brice, vous nous parliez tout à l'heure du vieux norrois. Pourriez-vous nous faire entendre cette langue islandaise ancienne ?
Donc, ça donne Veit ek atek hek, vinga meidi a, neitur alar niu, geiri undadur og gevin odni, sjalf sjalfumir a thei meidi, mangi veit, vers han ha rotum ren.
Ah, quand j'entends cette langue, ça ne me fait penser à rien de connu. Bon, ça correspond très vaguement à l'idée que je me fais de la langue viking, mais je ne sais même pas si ça se décline, s'il y a des conjugaisons. Est-ce que c'est une langue très compliquée ?
Au niveau de la poésie, ça peut devenir très compliqué. Effectivement, il y a des conjugaisons, il y a des déclinaisons. Ce qui a l'avantage, c'est que ça permet une certaine liberté dans les mots, surtout pour la poésie.
J'ai remarqué que quand vous changiez de langue, vous changiez de voix. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ?
Oui, c'est la même chose quand je parle anglais. Je crois qu'en fonction, c'est aussi quand, voilà, aussi quand je lis, j'ai tendance à avoir une voix un peu plus grave. Voilà, c'est juste lié à ma personne, c'est tout.
Mais vous savez, je pense que ça correspond à quelque chose de vrai. C'est pour ça aussi que c'est tellement extraordinaire d'apprendre une langue étrangère, c'est que ça permet de trouver d'autres dimensions de soi. Je pense réellement qu'on devient une autre personne quand on parle une autre langue. C'est pour ça aussi qu'il faut parler plus d'une langue, c'est que c'est soi-même aussi qu'on découvre.
Taf vilisk. Sak ategzu takni tiu. Launstafi ristna. Thad hefur lauka lindi langs oftrega fengit.